Parole protestante sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Jean-Didier Rousseau ainsi que de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous quatre actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Le mois dernier, nous avons parlé de la louange et aujourd'hui, nous vous proposons de parler de l'adoration. Quelle différence entre les deux ?
Ben, selon le dictionnaire, le verbe adorer veut dire d'abord rendre un culte à Dieu. Ensuite, c'est aimer quelqu'un passionnément. Et puis, c'est apprécier beaucoup. D'ailleurs, dans ce dernier sens, aujourd'hui, le mot adoration est employé à toutes les sauces, hein, si on peut dire. Ah, j'aime le chocolat, j'aime les fraises, j'adore cette voiture, j'adore ce chanteur. Oh là là, j'ai adoré ce film. Bon, ce qui enlève bien sûr de la profondeur au sens original du terme du mot adorer. Comme vous venez de le dire, Jean-Pierre, notre dernière émission avait pour thème la prière de louange. Nous encourageons d'ailleurs nos auditeurs à la réécouter. Mais pour résumer notre propos sur la louange, on loue le Seigneur pour sa création, sa bonté, sa bienveillance et plus souvent pour ce qu'il fait en notre faveur. La louange, c'est souvent de la reconnaissance et des remerciements. Et c'est vrai qu'il y a aussi une forme d'adoration dans la louange et vice-versa. On retrouve de la louange dans l'adoration. Il y a forcément un lien entre les deux. Mais l'adoration pure va plus loin que la louange. Quand nous louons Dieu, nous l'aimons et nous voulons lui faire plaisir. Alors que quand nous l'adorons, nous nous soumettons à lui. C'est vraiment une autre dimension spirituelle.
Très bien. Expliquez-nous ça. Qui commence, Daniel ?
Alors oui, pour parler de l'adoration, dans la Bible, les termes utilisés en hébreu ou en grec signifient « être en admiration », s'agenouiller, se prosterner, rendre hommage, marquer son obéissance, son respect. Et dans le Premier Testament, s'agenouiller ou se prosterner, ça faisait partie intégrante de l'adoration. Je vous cite deux versets, psaume 95, « Venez, prosternons-nous, inclinons-nous et mettons-nous à genoux devant l'Éternel qui nous a fait. » Et puis dans le Deutéronome, « C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer. » C'est à lui que tu dois rendre un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Et révérer, c'est encore un terme qui définit aussi l'adoration, c'est un profond respect. Jésus utilise aussi cette parole pour répondre à Satan. Vous savez, quand Satan vient le tenter dans le désert, il voulait que Jésus l'adore, lui, Satan. Et Jésus lui a répondu, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Et ici, il est question d'adorer et de le servir. Et dans l'adoration, nous servons Dieu. La Bible pose aussi cette question. Qui adorons-nous ? Dieu ? Jésus ? Ou une autre divinité faite de bois ou de pierre ? Et comme le dit le psaume 115, des dieux qui ont une bouche et ne parlent pas, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, etc.
C'est une question pertinente. Et donc, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des exemples concrets de personnes qui ont adoré, dans le Premier Testament, par exemple ?
Oui, un des premiers exemples, c'est Abraham. Une première fois, lorsque Dieu lui a fait la promesse d'une génération nombreuse, Abraham tomba le visage contre terre, on trouve ça en Genèse 17. Une autre fois, lorsqu'il est allé pour offrir son fils Isaac à Dieu, comme il lui avait demandé. Et par la foi, il a déclaré aux serviteurs qui les accompagnaient, « Vous, restez ici et moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Le Seigneur a pourvu pour le sacrifice et sur le mont Morija, tous les deux, ils ont adoré Dieu. Quand Moïse est sur le Sinaï, Dieu se révèle et lui parle alors, Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. On trouve ça dans Exode 34. Un prophète donne une parole de la part de Dieu au roi Josaphat et au peuple d'Israël pour leur dire comment combattre leur ennemi Et, il nous est dit, Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. C'est dans 2 Chroniques 20. On peut encore citer David, qui était un grand adorateur. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. C'est dans le psaume 63. Et dans le psaume 5, il dit, par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint temple.
Merci Jean-Didier. Et dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on parle de l'adoration, Bernard ?
Ah oui, dès le début d'ailleurs, hein, c'est l'occasion de la naissance de Jésus. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu que Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ah, il y a aussi un texte bien connu dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle à la Samaritaine, mais celle-ci demande à Jésus « Mais où est-ce qu'on doit adorer ?» Et Jésus lui répond « Mais ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et puis, il y a, souvenez-vous, l'aveugle de naissance que Jésus a guéri. Il est dit qu'il l'adora. Évoquons aussi les disciples dans la barque. Quand Jésus a calmé le vent, ils se sont prosternés et ont déclaré que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Aussi, c'est une autre forme donc d'adoration, celle de proclamer la seigneurie et la divinité de Jésus. Si on va plus loin, on peut citer aussi Marie de Béthanie, vous vous souvenez, elle a répandu un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Quelle belle image d'adoration! Et puis lors de l'ascension, les disciples ont adoré Jésus, c'est Luc qui nous le rapporte. Alors que Jésus les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Voilà, mais il y a un ou deux autres textes pour dire que l'Épître aux Hébreux dit que tous les anges adorent Jésus. Quant à l'apôtre Paul, il déclare à ses accusateurs « Je suis venu à Jérusalem pour adorer ». Et pour terminer cette liste qui est vraiment non exhaustive, hein, le livre de l'Apocalypse qui nous relate l'adoration envers l'agneau de Dieu. En effet, il nous est dit que les quatre êtres vivants et les anciens se prosternèrent et l'adorèrent. En fait, Jean-Pierre, l'adoration, elle est présente de la Genèse à l'Apocalypse.
Merci Bernard. Avant d'aller plus loin, nous faisons une pause en écoutant le chant majestueux de Dan Lutin.
Dieu tout puissant.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous sommes toujours en compagnie de Daniel, Jean-Didier et de Bernard. Nous parlons de la prière d'adoration. Avant la pause, nous avons parlé de l'adoration dans la Bible. Alors, comment se pratique l'adoration aujourd'hui, Daniel ?
Alors, je voudrais d'abord revenir un peu sur ce qu'est l'adoration par rapport à la louange. Dans la louange, on l'a dit tout à l'heure, il y a la notion de reconnaissance, de remerciement, de joie. On pourrait dire qu'il y a plusieurs paliers pour arriver à l'adoration. Il y a d'abord la reconnaissance. Nous parlons de ce que Dieu fait. Il sauve, il pardonne, il guérit, il console. Puis vient la louange où nous disons ce qu'il est pour nous. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est amour, et vous pouvez ajouter d'autres adjectifs. Et en retour, nous lui disons notre amour, nous nous confions en lui. Comme le dit le psaume 18, « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. »
Donc ça, c'est la différence entre la louange et l'adoration. Alors qu'est-ce que concrètement l'adoration ? C'est de la méditation, de la contemplation ?
Ben oui Jean-Pierre, c'est aussi tout ça. En fait, dans l'adoration, nous entrons dans l'intimité de Dieu. C'est comme dans le temple à Jérusalem. Il y avait le lieu très saint, là où Dieu se tenait. Et à cette époque, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, le chemin nous est ouvert pour nous tenir dans sa présence. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Ce qui veut dire que nous pouvons nous approcher du Père pour l'adorer. Et là, dans l'adoration, nous proclamons, oui, nous contemplons la grandeur de Dieu. Qui il est, sa personne, son être. Il est créateur, glorieux, saint, éternel, magnifique. C'est vers lui seul que va notre adoration. Nous lui manifestons notre amour gratuitement. Dans l'adoration, je ne demande rien à Dieu. Je lui manifeste mon amour et je l'honore.
Alors si je rebondis sur le terme saint que Daniel cite, la sainteté est une facette de Dieu qui est forte, vraiment très forte. Il est saint et souvent, que ce soit chez les prophètes du Premier Testament ou dans l'Apocalypse, on dit qu'il est trois fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Être saint, c'est être mis à part, c'est être élevé au-dessus de tout. Ainsi, Ésaïe, le prophète, le dit, je cite, « Les anges s'adressant l'un à l'autre, ils discutaient ensemble, et ils proclamaient « Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et on retrouve un peu la même chose dans l'Apocalypse au chapitre 4. Chacun des quatre êtres vivants disait jour et nuit « Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Ah, c'est une proclamation de la sainteté dans l'adoration. Et cette adoration doit nous pousser à ce sentiment d'humilité, reconnaître notre nature déchue par le péché. Il est tellement saint que les pécheurs que nous sommes ne peuvent voir sa face.
Oui, on comprend mieux ce qu'est l'adoration.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous abordons la dernière partie de notre émission. Alors je reviens à ma question, comment vivre l'adoration aujourd'hui, Jean-Didier ?
Eh bien, je confirme ce que Bernard a dit tout à l'heure, l'adoration est une démarche d'un cœur sincère, bien sûr avec la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dit la parole. Il faut s'approcher de Dieu dans l'humilité. On a vu tout à l'heure le terme « révérer ». On peut ajouter aussi « honorer », »,« rendre hommage », »,« être soumis ». Rappelez-vous, Jésus disait à Satan « Il est écrit, tu adoreras et tu serviras Dieu seul ». Il y a une notion de service envers Dieu. Se prosterner dans l'adoration était une attitude normale dans le Premier Testament. Se prosterner, c'est être dans l'humilité, la soumission, la repentance aussi. Reconnaître notre besoin de lui. Oui, on a besoin de laisser nos prétentions et notre orgueil pour nous approcher de Dieu saint dans l'adoration. Il y a plein d'expressions pour manifester notre adoration, mais il ne faut pas que ce soit une liste de mots vides de sens. En plus, aucun mot ne peut vraiment décrire qui il est. Or donc, notre attitude de cœur, même sans un mot, est importante.
Oui, mais se prosterner n'est pas dans nos habitudes protestantes aujourd'hui. Se mettre à genoux peut nous sembler désagréable et contraignant, et peut-être même humiliant.
Oui, c'est justement ce que dit Jean Didier. Être dans l'humilité, ce n'est pas facile. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a, ce n'est pas non plus une obligation ni une tradition que de se mettre à genoux. Si je me mets à genoux pour épater les autres avec un cœur qui n'est pas pur, ça ne marche pas, quoi. Donc il vaut mieux ne pas le faire. L'attitude d'un cœur sincère est préférable. Et puis, il y a d'autres attitudes pour accompagner notre adoration. Élever nos mains, par exemple, comme le disent les psaumes 63 et 134, si vous voulez aller lire. Mais je cite juste courtement. « Dans ton temple, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Ainsi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Levez les mains vers le sanctuaire. » Et bénissez l'Éternel. Il peut y avoir donc une gestuelle dans l'adoration, mais qui sera pas obligatoirement celle de se mettre à genoux.
Oui, ben Jean-Didier l'a dit, l'adoration est aussi un abandon de soi, de nos prétentions, de ce que nous voulons ou exigeons. J'abandonne tout entre les mains de Dieu, je lui laisse le contrôle sur ma vie. C'est pas toujours facile. C'est aussi apprendre à faire silence devant lui. Et l'écouter, parce qu'on aime beaucoup parler, même quand nous prions d'ailleurs. Quand nous entrons dans l'adoration, il y a une aspiration de nos cœurs à être dans sa présence. Et David le disait bien dans le psaume 42, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et c'est un temps où on s'arrête, on prend le temps, on désire être dans sa présence pour lui manifester notre amour. Et ce n'est pas toujours facile de s'arrêter. Il faut se contraindre quelquefois. Mais qu'est-ce que c'est bon d'entrer dans l'intimité de Dieu? Je ne le vois pas, certes, mais je le sens. Je ressens son amour et il veut aussi recevoir mon amour en retour. Et puis dans l'adoration, il y a la proclamation de qui est Dieu. Dans le beau chant d'adoration que nous avons écouté tout à l'heure, il est dit, et je reprends les paroles, « Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. » C'est encore toute une série d'expressions pour adorer. On pourrait prendre chaque mot et développer, mais on n'a pas le temps. Je prends juste le terme « souverain » qui nous dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, et qu'il règne. Et il faut qu'il règne d'abord dans mon cœur, dans notre cœur. Alors nous pouvons proclamer, selon la prière du Notre Père, que ton règne vienne.
Y a-t-il un lieu privilégié pour adorer?
Pas du tout. Nous pouvons adorer, bien sûr, à l'église, mais aussi dans l'intimité de notre chambre, ou dans la nature, en contemplant la création. Jésus a dit à la Samaritaine que ce n'était pas dans tel ou tel lieu que nous devons adorer, mais il faut simplement être un adorateur en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que nous pouvons adorer Dieu dans n'importe quel lieu. Et puis l'adoration produit une transformation dans notre cœur, notre esprit. Nous sommes transformés à son image pour ressembler de plus en plus à Jésus. Comme le dit si bien l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « Notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. » Il nous rend semblable à lui avec une gloire toujours plus grande.
Je me permets d'insister pour dire que l'adoration, c'est vraiment une rencontre avec Dieu. C'est un cœur à cœur. Et comme le dit le verset cité par Jean Didier, dans ces moments d'intimité, Dieu agit en nous par son esprit. Et puis Dieu nous a créés pour que nous puissions célébrer sa gloire, comme il est dit à plusieurs reprises dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes créés pour l'adorer. Quelle grâce, quel privilège, je trouve, en tout cas, moi personnellement, de pouvoir être en communion avec le Dieu créateur. Écoutez ce que Paul dit. Il dit « Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse, sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui, la gloire à jamais. » Ah ben moi, je trouve que avec cela, on peut franchement adorer un Dieu qui est si grand.
Merci Bernard. Nous aurions pu continuer encore à parler de l'adoration, je pense, mais notre émission s'achève. Alors, qui apporte une conclusion, Daniel ?
Oui, alors je vous propose de terminer comme une prière d'adoration par trois textes, l'un du Premier Testament et les deux autres du Nouveau Testament. Je vous les lis à la suite. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen.
Merci Daniel, merci à vous trois. Je vois que c'est encore un sujet très très riche et si je pouvais retenir deux choses, c'est que la véritable adoration nous amène dans la présence de Dieu et qu'elle nous transforme à l'image de Jésus.